22 60.
Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
Romain Ozoui.
Et c'est l'heure de votre journal en français facile. Bonsoir à tous. Journal présenté en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
À la une de l'actualité ce soir, l'Iran promet de contourner les sanctions américaines. Nouvelle série de sanctions imposées ce lundi par Washington. Elle concerne les secteurs pétroliers et financiers.
Les États-Unis, qui sont à la veille des élections de mi-mandat, des scrutins considérés par beaucoup comme un référendum pour ou contre le président américain Donald Trump.
En France, au lendemain de la victoire du non au référendum en Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes n'entendent pas abandonner leur combat. De nouvelles consultations pourraient avoir lieu dans les prochaines années.
Et puis à la fin de ce journal, nous évoquerons une conséquence inattendue du réchauffement climatique. La cuvée 2018 de vin s'annonce inédite en Suède grâce à un ensoleillement exceptionnel.
Les journaux
en français facile.
En français facile.
Toutes les sanctions américaines visant l'Iran sont désormais rétablies.
Alors ces sanctions avaient été levées après la signature de l'accord sur le nucléaire iranien en 2015. Mais après son élection, Donald Trump a rejeté cet accord et le président américain a promis de rétablir ces sanctions qui frappent Téhéran. Ainsi, une première série de sanctions a à nouveau été mise en place cet été et la seconde série a été annoncée ce lundi. Elle concerne les secteurs pétroliers et financiers. À noter toutefois que 8 pays importateurs de pétrole iranien sont provisoirement exclus de ces sanctions. Le détail avec Nicolas Falaise.
Pression maximale sur l'Iran, les dirigeants américains maintiennent leur objectif. Téhéran doit renoncer à son rôle régional que Washington qualifie de déstabilisateur. En outre, les États-Unis martèlent que l'Iran doit accepter de négocier un nouvel accord nucléaire. Pour tenter d'y parvenir, les sanctions américaines asphyxient l'économie iranienne. Elles touchent aussi les pays qui commercent avec l'Iran. Mais ce lundi, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a divulgué une liste de 8 pays autorisés à poursuivre leurs achats de pétrole iranien pendant les 6 prochains mois.
Nous avons décidé d'allouer des autorisations temporaires à quelques pays en fonction de circonstances spécifiques et pour que le marché pétrolier reste bien approvisionné. Les États-Unis accorderont ces exemptions à la Chine, à l'Inde, à l'Italie, à la Grèce, au Japon, à la Corée du Sud, à Taïwan et à la Turquie.
Selon l'administration américaine, certains de ces pays ont déjà considérablement réduit leurs importations de pétrole iranien et ont besoin de quelques mois supplémentaires. Mais à terme, rien ne dit que la Chine ou l'Inde se plieront aux injonctions de Washington.
Nicolas Falaise et le président iranien a réagi dans un discours télévisé au rétablissement de ces sanctions américaines. Des sanctions que Hassan Rouhani entend contourner avec fierté.
Les États-Unis, Romain, qui sont à la veille des élections de mi-mandat.
Oui, c'est un événement considérable. C'est toujours un exercice délicat pour le président en place. Particulièrement cette année où l'on parle de référendum pour ou contre Donald Trump. Alors les scrutins visent à renouveler l'ensemble des sièges à la Chambre des représentants, un tiers des sièges au Sénat, et puis plusieurs gouverneurs et élus locaux seront désignés à cette occasion. Rendez-vous donc demain mardi.
Et toujours aux États-Unis, le procès du plus grand narcotrafiquant du monde s'est ouvert ce lundi.
Une première journée consacrée à la sélection des jurés. Le Mexicain Joaquin Guzman, c'est lui qui est jugé, est surnommé El Chapo. Il est connu pour ses évasions spectaculaires et pour avoir dirigé pendant 25 ans l'un des cartels de drogue les plus puissants au monde. Un cartel, c'est une organisation. Portrait de cet homme avec Margot Turgi.
En espagnol, El Chapo signifie le petit. Joaquin Guzman doit ce surnom à sa taille, moins d'1,70 m. Mais ce surnom est à l'opposé de son ambition. Originaire de l'état du Sinaloa, au nord-ouest du Mexique, il n'a que 15 ans quand il cultive ses premiers plants de cannabis. C'est dans les années 80 que El Chapo entre réellement dans le trafic de drogue, et pas auprès de n'importe qui. Miguel Ángel Félix Gallardo est le parrain du trafic de cocaïne au Mexique. L'arrestation de Gallardo en 1989 et des tensions tensions internes poussent El Chapo à retourner dans l'état du Sinaloa. Il prend les rênes du cartel de drogue local et en fait le plus puissant au monde. Il pèserait aujourd'hui 20 milliards de dollars. Le chef du cartel de Sinaloa se forge aussi une image publique grâce à deux évasions spectaculaires. En 2001, il s'échappe d'une prison de haute sécurité en se cachant dans un panier à linge. En 2015, il s'évade par un tunnel creusé sous la douche de sa cellule. Sa cavale prend fin en 2016 au Mexique. Les États-Unis obtiennent son extradition l'année suivante. Depuis, il est enfermé dans la prison qu'on surnomme le Guantanamo de New York. Son procès, reporté plusieurs fois, s'ouvre ce lundi.
En France, c'est l'heure des enseignements au lendemain du référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie.
Le non l'a emporté avec 56% des voix, mais une forte percée des indépendantistes a été observée et des indépendantistes qui n'entendent pas abandonner leur combat. Ils espèrent que d'autres consultations seront organisées dans les prochaines années. Envoyé spécial de RFI à Nouméa, Julien Chavanne.
Ce n'était pour eux qu'un galop d'essai. Avant même le vote de dimanche, les indépendantistes pensaient déjà au coup d'après, car deux nouvelles consultations peuvent être organisées, l'une d'ici 2 ans. Si c'est le non qui l'emporte encore, eh bien un troisième référendum pourra se tenir en 2022. C'est écrit noir sur blanc dans l'accord de Nouméa signé il y a 20 ans. Et les indépendantistes comptent bien en profiter. Ils en ont les moyens, c'est-à-dire suffisamment d'élus au congrès local pour le demander. Et puis leur score plus élevé que prévu dimanche leur donne une certaine légitimité. Le camp loyaliste, lui, aimerait tourner la page de cet indépendantisme total. 2 autres référendums amèneraient, disent-ils, des tensions. La campagne, la logistique, l'incertitude feraient perdre du temps à la Nouvelle-Calédonie pour se développer. Cette question a été au cœur ici des rencontres d'Édouard Philippe avec les responsables politiques. Et le Premier ministre joue le « en même temps » version calédonienne. Oui, 2 autres référendums sont possibles, mais pour lui, il faut aussi tenir compte de la victoire du non et penser à l'avenir du territoire. Tous ont rendez-vous le mois prochain à Paris pour tirer les leçons de ce scrutin. L'après-référendum attendra encore un peu. Julien Chavanne, Nouméa, RFI.
Également dans l'actualité française, Emmanuel Macron poursuit son marathon des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale.
Hier à Strasbourg, le président français était à nouveau dans l'est du pays aujourd'hui. Il s'est rendu sur le site de la bataille de Morhange, où les troupes françaises avaient connu la défaite. Emmanuel Macron a dévoilé une plaque commémorative sur laquelle il est inscrit « 100 ans après, leur sacrifice nous oblige à défendre la paix ». Et cela en hommage aux soldats français.
Et puis quand on parle de vin, on pense à la France, à l'Italie ou encore à la Californie, mais pas forcément à la Suède.
Et pourtant, Sylvie, le royaume nordique cultive la vigne depuis le début des années 2000. Et cette année s'annonce exceptionnelle concernant le nombre de bouteilles produites, puisque les volumes ont doublé par rapport aux années précédentes. Et c'est une conséquence plutôt inattendue du réchauffement climatique. Explication de notre correspondant Frédéric Faux.
Après un printemps précoce, suivi d'une canicule estivale qui a battu tous les records, les viticulteurs suédois ont eu, en ce début d'automne, une très bonne nouvelle à annoncer. Leur récolte de raisins au niveau national a doublé, en passant de 100 à 200 tonnes. Des volumes qui feraient sourire n'importe quelle coopérative du sud de la France, mais qui sont un bel encouragement pour les viticulteurs suédois. Car la vigne dans le royaume nordique est une histoire récente. Les premières n'ont été plantées que dans les années 2000, et aujourd'hui le pays compte moins de 100 producteurs. Mais le changement climatique, qui a été à l'origine cet été de graves incendies dans les forêts suédoises, profite à d'autres cultures, comme celle de la vigne, avec un avantage que n'ont pas d'autres régions. Lorsque le raisin mûrit en été, la Suède, grâce à sa situation géographique tout au nord de l'Europe, offre à ses vignes des journées 25% plus longues que celles dont bénéficient par exemple les châteaux bordelais. Un atout qui pourrait séduire à terme d'autres viticulteurs. Frédéric Faux, Stockholm, RFI.
Enfin, c'est parti pour une grande semaine de prix littéraires en France.
Et le premier de ces prix qui a été décerné aujourd'hui, c'est le prix Fémina. Le lauréat est l'écrivain et journaliste Philippe Lançon pour son livre intitulé « Le Lambeau ». C'est un livre dans lequel il évoque l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015, au cours duquel il a été grièvement blessé. Demain, c'est le prix Médicis qui sera décerné avant le Renaudot et le Goncourt. mercredi. Un mot de tennis pour terminer.
Oui.
Sylvie, je sais que vous aimez.
Avec des nouvelles de Nadal.
Sport. Exactement. Rafael Nadal forfait pour le dernier tournoi de l'année. Il ne jouera pas donc le Masters. Si cela veut dire que c'est Novak Djokovic, ce Serbe, qui va terminer l'année à la première place mondiale. Ainsi s'achève le journal en français facile. Merci beaucoup Sylvie.
Merci Romain.
21h10 ici à Paris.